Les cinéphiles, Aileen.
Bonsoir à vous tous, bienvenue parmi nous pour cette séance de cinéphiles spéciale film d'horreur. Donc âme sensible, s'abstenir. Bon, je dois vous avouer que moi c'était difficile hein, pour moi de préparer cette émission car je suis une vraie trouillarde. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains pour vous préparer une émission du tonnerre. Au programme, la critique du film Sans un bruit qui a fait fureur aux États-Unis. On vous révélera aussi quelques secrets concernant le tournage de ce film. Ce sera d'ici quelques minutes. Dans bande originale, c'est le mythique film Shining qui est à l'honneur. Rien que d'y penser, j'ai déjà les frissons. Ensuite, Raphaël Chevalet sera aussi de la partie pour nous parler des sorties de la semaine. Promis, lui ne nous fera pas peur. Et bien sûr, avant de se quitter, on vous fera gagner vos entrées de cinéma. Et je vous donne déjà un indice, maintenant, pour l'extrait du jour. On est dans une émission spéciale film d'horreur. Voilà, j'en dis pas plus. C'est parti, pas besoin d'attendre Halloween pour faire le plein de films d'horreur. C'est dans les cinéphiles ce soir, jusqu'à 19h.
Les cinéphiles, Aileen.
Avant de vous livrer la critique du film Sans un bruit, on vous révèle quelques secrets de tournage. Le film a été réalisé par John Krasinski, plutôt connu comme acteur, avec notamment son rôle dans la série The Office. Il n'en est cependant pas à son premier coup d'essai en tant que réalisateur, puisqu'il a déjà porté cette casquette pour deux films. Mais pour Sans un bruit, c'était un peu plus particulier, car non seulement il est réalisateur, mais aussi producteur et scénariste. Bon, la première version du scénario, on la doit à Brian Woods et Scott Beck. D'ailleurs, elle ne comportait qu'une seule ligne de dialogue. Lorsque le script est tombé entre les mains de Krasinski, sa compagne Emily Blunt venait de mettre au monde leur seconde fille. Il a retrouvé dans sa lecture les angoisses de chaque parent, comme il l'a confié dans une interview. J'étais déjà en train de faire face à toutes les angoisses du jeune parent. Comment protéger mes filles et être un bon père quand j'ai reçu ce scénario, si bien que je me suis identifiée à un niveau très personnel. J'ai senti que sur la surface de l'histoire, il y avait une métaphore intéressante, mais terrible sur le rôle d'un parent. J'étais vraiment très à fleur de peau et très nerveux à ce moment-là. Et ça a donc été très fort d'imaginer ce que les parents seraient prêts à faire pour protéger leurs enfants. C'est-à-dire faire l'impossible, vivre sans un bruit. Mon imagination s'est totalement affolée. Il y avait tellement d'éléments à explorer à partir de cette idée. Krasinski a également rajouté « En réalité, mes films préférés d'horreur ou pas sont ceux qui nourrissent une métaphore sous-jacente palpable. Sans un bruit est un film effrayant, mais il est effrayant parce qu'il parle d'une vraie famille. Et j'ai senti que mon expérience personnelle pouvait vraiment apporter quelque chose au film. » C'est sans doute pour ces raisons que sa femme, Emily Blunt, a elle aussi été séduite par le scénario. C'est d'ailleurs la première fois que les deux tourtereaux se partagent la réplique. C'était d'ailleurs plutôt pratique de préparer ce film en ayant sa partenaire à la maison, puisque John Krasinski a avoué être devenu un peu obsédé par les sons pendant les préparatifs de tournage. Je me suis mis à tout écouter, du cliquetis des couverts sur les assiettes jusqu'à la façon dont les chaussures tombent sur le sol lorsqu'on les enlève. C'est même devenu une sorte de jeu à la maison. Ma femme et moi, on essayait d'être silencieux. Et si jamais l'un d'entre nous faisait le moindre bruit, il fallait qu'on se tourne l'un vers l'autre le plus silencieusement possible et qu'on lui dise « t'es mort ». Finalement, ça a été une très bonne préparation. Le pari est-il réussi? Je vous donnerai mon avis avec la critique d'ici quelques instants.
Les cinéphiles, la critique.
Sans un bruit, un film d'horreur réalisé par John Krasinski.
À quoi on sert si on peut pas les protéger? On doit les protéger.
Dans un monde post-apocalyptique, on ne survit qu'en restant silencieux. En effet, des créatures très sensibles au bruit attaquent dès qu'elles entendent un son. On suit un couple joué par John Krasinski et Emily Blunt, également ensemble dans la vraie vie. Un couple donc et leurs trois enfants. Vont-ils survivre? Si oui, comment? À priori, je ne suis pas très fan des films d'épouvante, mais je dois vous avouer que celui-ci est bien différent des films d'horreur dans lesquels coule le sang à foison. Il s'apparente plus à un thriller psychologique, puisqu'on voit surtout comment les parents mettent tout en œuvre pour protéger leurs enfants. On découvre les différents stratagèmes que la famille met en place pour survivre. Tout le monde marche pieds nus, les enfants lancent les dés du Monopoly sur un tapis, les pions sont en tissu et ils communiquent entre eux avec la langue des signes. S'ils ont survécu, c'est sans doute grâce à cet avantage. En effet, la fille aînée est sourde depuis la naissance. Les membres de la famille maîtrisaient donc la langue des signes depuis un bon bout de temps. Évidemment, on n'est pas seulement attendri par cette famille unie. Les monstres sont effrayants et on sursaute lorsqu'ils débarquent de nulle part et on a peur dès qu'on sent leur présence. Si le film est autant réussi, c'est aussi grâce à la bande-son. Il y a très peu de dialogue entre les personnages puisqu'ils n'osent pas faire de bruit, mais la musique comble ce silence de manière efficace. Les acteurs aussi sont formidables. La chimie que dégageaient Emily Blunt et John Krasinski est juste tellement touchante. Et les enfants, eux aussi, sont super convaincants dans leur rôle. Bref, sans un bruit, c'est la bonne surprise de ce début d'été. Il y a du suspense, des acteurs incroyables et même de l'émotion, puisque c'est avant tout une histoire de famille. Je donne à ce film la note de 8 sur 10.
Jusqu'à 19h. Les cinéphiles.
Et tout de suite, on va faire place à un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Je suis sûre que vous aussi, il vous a fait peur.
Les cinéphiles. Bande originale.
Dès les premières notes, vous reconnaissez sûrement ce film culte de Stanley Kubrick. Shining, adapté du roman du même nom de Stephen King. La musique est terrifiante alors que le long métrage s'ouvre sur des paysages apaisants. On voit une voiture jaune traverser des contrées de forêt, des lacs, des endroits ensoleillés avant qu'avec l'altitude, la neige arrive elle aussi dans l'image. Cette musique ne nous rassure pas lorsqu'on voit Jack Terrance, joué par Jack Nicholson, arriver dans cet hôtel qui ferme ses portes durant l'hiver. Chaque année, les responsables de l'établissement sélectionnent un gardien qui y séjourne pour en prendre soin. Jack est intéressé par l'offre car il aimerait s'isoler de la ville pour finir son roman. Lors de son entretien d'embauche, on le prévient que le gardien précédent avait sombré dans la folie durant l'hiver. Il a tué de sang-froid ses deux petites jumelles, son épouse, et s'est ensuite donné la mort. Pendant ce temps, la femme de Jack, Wendy, et leur fils, Danny, attendent à la maison le résultat de l'entretien. Le jeune Danny ne veut pas y aller. Il a comme un mauvais pressentiment. Et pour cause, il a des visions. Il voit deux jumelles vêtues de robes bleues, du sang coulant à flot d'un ascenseur et d'autres images horrifiques qui le préviennent du danger à venir. La musique est à nouveau épouvantable, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'a pas été créée spécialement pour le film. Kubrick a sélectionné lui-même quelques passages de morceaux classiques, comme il l'avait fait pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Très vite, on comprend que les visions de Danny se réalisent et que cet hôtel cache quelque chose. Lorsque Danny arrive avec des taches rouges sur sa gorge, Wendy accuse son mari, ancien alcoolique, d'avoir frappé leur fils. Wendy ne comprend que trop tard qu'elle a accusé à tort son époux et qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en est pris à Danny. Quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre? C'est à partir de ce moment précis que Jack sombre complètement dans la folie. Lors d'une dispute qui devient de plus en plus violente, Wendy frappe son mari avec une batte de baseball. Il tombe des escaliers et s'évanouit. Son épouse le transporte alors dans la chambre froide de la cuisine. La scène la plus mythique arrive lorsque Jack s'échappe de la chambre froide et poursuit Wendy avec une hache. Elles tentent de se réfugier dans leurs appartements et arrivent à faire fuir Danny par la fenêtre de la salle de bain. Mais l'ouverture de la fenêtre est trop petite pour Wendy. Jack détruit alors la porte de la salle de bain à coups de hache. Wendy arrive heureusement à s'échapper en lui donnant un coup de couteau dans le bras. Danny et sa mère arrivent à s'échapper en montant dans une voiture et s'enfuient de l'hôtel. Jack, quant à lui, meurt de froid dans le labyrinthe. Le film se termine dans l'hôtel vide. La caméra s'approche d'un mur orné d'une vingtaine de photographies. L'une d'entre elles a été prise lors d'un bal en 1921. Et sur cette photo, on voit la tête de Jack. Qu'est-ce que cela signifie ? Stanley Kubrick ne l'a jamais révélé. On entend alors une musique qui nous ramène à cette époque, une chanson intitulée « Midnight, the stars and you » qui atténue toutes les frayeurs qu'on a eues durant le film. Contrasté hein, de filmer, enfin de finir un film d'horreur avec une chanson comme ça qui date des années 20, des années 30. Midnight, the Stars and You, une jolie chanson donc qui clôt le film Shining dont on parlait à l'instant dans bande originale. Allez, fini les frayeurs, place aux sorties de la semaine.
Les cinéphiles, les sorties.
On accueille parmi nous Raphaël Chevalet, journaliste cinéma et notamment co-responsable de la Lanterne Magique pour nous parler des sorties et événements de la semaine. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Aileen.
Et on commence par un film d'action parce qu'il en faut toujours un, n'est-ce pas ?
Oui, il n'y en a pas toutes les semaines quand même. Hein. Oui, c'est Sicario, la guerre des cartels. Donc c'est le deuxième Sicario. Il y a d'abord eu un premier film de Denis Villeneuve, le cinéaste canadien, qui avait été présenté à Cannes en 2015. Et donc c'est la suite de ce film qui raconte le combat contre le trafic de drogue à la frontière du Mexique et des États-Unis. Ce deuxième film a été réalisé par l'Italien Stefano Solima, qui est un spécialiste du genre, parce que c'est un des réalisateurs de la série Gomorra sur la mafia napolitaine. Donc on se retrouve de nouveau au Mexique avec Benicio del Toro dans le rôle d'un agent double qui est mandaté par un sbire des services secrets américains pour enlever la fille d'un baron de la drogue afin de déclencher une guerre des gangs. Comme ça on pense que tout le monde va s'entretuer et puis que ça va régler le problème. Et puis évidemment, ça dégénère. Donc c'est une plongée dans l'univers criminel des cartels, un film qui dénonce quand même les méthodes des services secrets américains. C'est plein de suspense, tendu, il y a de l'action.
Et il y a Charlize Theron qui est de retour dans Tully.
Oui, Tully, le nouveau film de Jason Reitman, c'est le réalisateur de Juno. Vous connaissez Juno ?
Ah, j'ai adoré.
Ouais.
Alors, et là, ça parle à nouveau de maternité.
Donc, Charlize Theron, elle joue le rôle d'une femme de 40 ans qui vient d'avoir son troisième enfant et elle croule sous les couches, les pleurs, le linge sale. Enfin, c'est un vrai burn-out. Et puis, pour la décharger, son frère va lui payer une babysitter. Faut pas en dire trop pour pas déflorer un peu le plaisir du film, mais c'est vraiment un film sur les déboires de la maternité. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ce film, c'est la performance de l'actrice qui touche vraiment très juste.
On passe à un film qui fait du bien, même s'il traite un sujet pas forcément facile, on va dire. Notamment, il parle de faire son coming out quand on est adolescent. Mm-hmm. On va parler de Love, Simon.
Oui, du cinéaste américain Greg Berlanti. Donc c'est quand même assez drôle, hein. C'est quand même une comédie sur l'adolescence, de l'histoire de ce jeune Simon, qui est issu d'une famille typique et modèle américaine. Il va au lycée, il est entouré de super copains, les filles en pincent pour lui, mais il a ce grand secret d'être gay, et personne ne le sait, sauf Blue, un autre lycéen qu'il ne connaît pas, mais avec qui il communique sur Internet, en ligne, de façon cachée. Et on va pas raconter tout le film, mais il va devoir effectivement faire son coming out. Ça pourrait sembler un peu déjà vu et plein de clichés, mais c'est très réussi dans le sens où ça montre très bien, d'une part, l'absurdité de la norme, mais surtout les difficultés des jeunes à protéger aujourd'hui leur vie privée, à relever ce grand défi du numérique, alors que les parents n'ont pas le recul suffisant pour les sensibiliser aux dérives que peut avoir Internet, ce qui complique vraiment la quête d'identité des jeunes aujourd'hui. Donc c'est plein d'humour, c'est intelligent, c'est sensible, et les jeunes acteurs sont super.
On passe à un film iranien qui sort également cette semaine, Looking for Umm Kulthum.
Oui, le nouveau film de la grande artiste et vidéaste iranienne Shirin Nesat, qui est depuis l'adolescence établie à New York, et elle poursuit vraiment une œuvre poétique et très politique et engagée sur l'image de la femme et sur les barrières culturelles et religieuses dans les pays islamiques. Et là, dans ce film, au lieu de faire simplement le biopic, la biographie de Umm Kulthum, elle nous raconte l'histoire d'une réalisatrice qui va tourner le biopic de cette grande diva égyptienne. Et puis, avec cette mise en abîme, elle arrive vraiment à confronter son personnage, enfin ses personnages de femmes, aux personnages masculins qui sont très conservateurs et qui l'entourent. Donc c'est vraiment une grande mise en abîme qui permet de saisir d'une part le combat de Shirin Nesat contre le patriarcat, mais aussi de repenser notre relation à la culture arabe, et puis musicalement, c'est splendide.
D'ailleurs, en parlant de culture, il y a aussi un peu de confrontation des cultures dans What Will People Say.
Oui, littéralement, ce que vont dire les gens. C'est un film où justement la pression de la communauté oppresse les personnages. C'est un film d'une réalisatrice norvégienne d'origine pakistanaise qui s'est inspirée pour ce film de sa propre histoire. Quand elle était ado, son père l'a découverte dans sa chambre avec son petit ami, et du coup il l'a renvoyée de force au Pakistan. Donc c'est assez dramatique, mais c'est vraiment un film clé sur les difficultés de l'intégration qui montre ces deux culture que tout oppose, la Norvège et le Pakistan, et qui montre que les rituels et les coutumes ne peuvent pas être appliqués tels quels par les immigrés, parce qu'ils ne peuvent pas s'y retrouver dans le pays où ils vivent. Donc c'est assez coup de poing, très prenant, c'est vraiment un film clé sur le sujet.
Et Raphaël, on ne va pas se quitter sans citer les quelques événements de la semaine. On commence par un documentaire qui sera projeté en présence de la réalisatrice Blue Note Records.
Oui, ce jeudi à Neuchâtel, en présence de Sophie Huber. Blue Note, c'est le label américain de jazz et de jazz funk qui a fait émerger des artistes comme Herbie Hancock, Wayne Shorter ou Norah Jones par exemple. Et puis donc c'est aussi une expérience musicale, et puis c'est très intéressant pour les fans de ce genre de musique.
Et on finit par une projection du match également qui opposera la Suisse au Costa Rica. Comme ça, on peut être au frais et soutenir la Nati.
Oui, donc les matchs au cinéma, c'est gratuit, hein, donc on passe plus seulement des films, on passe des opéras, aujourd'hui il y a même du foot. Et puis on espère que la Suisse marquera 2-1 contre le Costa Rica.
C'est votre pronostic.
Ouais. Et vous?
Ouais, moi je pense 1-1. Ça va être serré quand même. Je vous remercie Raphaël, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Aïline.
Les cinéphiles.
Et après, justement, avoir fait les pronostics, hein, je sais pas du tout s'ils sont justes. Moi, et le foot, ça fait beaucoup, hein, je m'y connais pas trop. Je suis toujours surprise par les résultats, de toute façon. Mais bref, on va arrêter de parler foot là tout de suite. On va parler cinéma, puisque c'est l'heure de jouer avec nous pour gagner vos billets pour une séance de votre choix dans les cinémas Cinémon, Cinépel ou Cinévital. Pour gagner ces deux entrées, il suffit de deviner quel film se cache derrière l'extrait que l'on va vous diffuser tout de suite. Et attention, je tiens à vous rappeler qu'on a mis les films d'horreur en avant aujourd'hui. C'est un petit indice que je vous donne. Si vous avez la réponse, vous pouvez donc nous appeler au 0901 70 20 20. C'est à vous de jouer.
Il était une fois une fillette dont personne n'ose prononcer le nom. De l'au-delà, elle veut se venger d'une vie de désolation. Si vous regardez son histoire, vous n'avez plus que 7 jours à vivre.
Et apparemment, ça parle déjà à certaines personnes. 0901 70 20 20, si vous pensez savoir quel film se cache derrière cet extrait. Et un cinéphile a peut-être la réponse. Bonsoir, qui est avec nous? Ah, j'ai perdu la personne. Apparemment, c'est la journée, on a des problèmes avec les téléphones. Bonsoir, qui est avec nous?
Oui, bonsoir, Ksenia Laoub.
Bonsoir, Ksenia. Alors, est-ce que vous avez trouvé quel film se cache derrière l'extrait qu'on vous a diffusé il y a juste quelques secondes?
Alors, je pense que c'est Le Cercle.
Le Cercle? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, si j'ose vous demander?
Je ne suis pas très film d'horreur, mais l'extrait que vous avez passé, ça m'a fait penser à ça.
Eh bien, c'est une bonne réponse. Félicitations.
Merci.
Film d'horreur, c'est pas trop votre truc? Qu'est-ce que votre truc alors plutôt? Non. Quel genre de film vous aimez bien?
Plutôt les films d'action.
Les films d'action. Et du coup, prochainement, là, quelque chose qui vous tente avec ces deux billets que vous venez de gagner, vous pouvez voir n'importe quel film qui sort prochainement dans les cinémas de la région.
Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas trop regardé, mais j'ai droit à voir après.
Avec grand plaisir, en tout cas, qu'on vous offre ces billets. Je vous invite juste à rester avec nous hors antenne. Je prendrai vos coordonnées d'ici un court instant.
Ça marche, merci.
Merci à vous. Et voilà, les cinéphiles spéciales films d'horreur, c'est fini. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur. En tout cas, puisqu'il fait encore jour dehors, moi, je n'ai pas trop peur de rentrer toute seule à la maison, là, tout de suite. Quoi qu'il en soit, j'étais ravie vraiment de vous accompagner. Je vous rappelle que toutes les émissions des cinéphiles, si vous voulez également retrouver les sorties de la semaine, vous pouvez réécouter les émissions sur notre site internet et même avoir tous les horaires des séances sur notre site internet aussi. Bah oui, on est comme ça, on aime vous rendre service. La semaine prochaine, on revient bien évidemment pour une nouvelle émission, c'est tous les lundis des 18h20, et on va mettre en avant une grande actrice du cinéma hollywoodien, Charlize Theron. Vous l'avez peut-être entendu avant dans les sorties avec Raphaël Chevalet, sort un nouveau film intitulé Tully. Du coup, à cette occasion, on a décidé de lui rendre hommage avec notamment encore la bande originale du film Monster, qui lui avait valu l'Oscar de la meilleure actrice. J'espère que ce programme vous tente. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine dans les cinéphiles dès 18h20. D'ici là, pas de bêtises.
Les cinéphiles.